Data Center. Data Center, c'est le nouveau projet enfin, qu'ils sont en train de construire à La Courneuve. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un terrain de foot, un style forme un peu ronde, style Ligue des Champions.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour vérifier une fois de plus que ce qu'on a dit dans les 621 émissions précédentes était vrai, à savoir que la planète est fichue. Oui, cet après-midi, comme souvent quand on zoome sur un enjeu écologique, le gai savoir en a gros sur la patate. Heavy on the potato, comme avait écrit Cyril dans sa copie du bac d'anglais, il avait eu 8. Pourtant, l'idée de cette émission est née d'une réflexion joyeuse que Cyril avait eue dans le fully flatbed de la business class de Delta Airlines qui le ramenait de Vegas à Paris après son escapade U2. Une info, un chiffre qu'il avait découvert sur Fox News et qu'il avait tellement déculpabilisé qu'il avait fallu qu'il m'appelle séance tenante. « Ma puce, sans te commander, trouve-moi un téléphone satellitaire, FISA, faut que je bigophone Noël », avait-il lancé à l'hôtesse de l'air, qui lui réservait déjà une sixième coupe de moitié chandon. Off course, Mister La Carrière. Deux minutes plus tard, mon téléphone sonnait, c'était Cyril, il avait une grande nouvelle. « Hé, le vieux gauchiste, j'ai une info qui va te défriser les poils du bas. Ce qui consomme le plus, c'est pas les avions, c'est les data centers. Ils consomment autant d'électricité que le transport aérien et ça va doubler l'année prochaine, alors qu'on arrête de m'emmerder. Ma puce, champagne pour toute la business, c'est ma tournée. » À l'autre bout du fil, vous l'imaginez, j'étais perplexe.
Oui.
Est-il vrai que les data centers consomment autant d'énergie que le secteur du transport aérien? Et au fait, où se trouvent ces data centers? Combien y en a-t-il chez nous en France? Combien sont en projet? Comment ça fonctionne un data center? Pourquoi ça ne bug pas? Et surtout, y en a-t-il un entier spécialement dédié aux requêtes débiles de Manon qui passe son temps à interroger ChatGPT pour savoir à quoi ressemblera son enfant avec Pedro Pascal? Zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour.
Quand il n'y a plus d'espoir, que l'invité qui était prévu nous plante à la dernière minute, alors qu'avec Cyril, on n'est pas en mesure de réagir ou de passer des coups de fil puisqu'il y a OM Bergame à la télé et qu'un match de l'OM en Ligue des Champions, c'est sacré. Quand on croit que tout est foutu et qu'on va faire l'émission avec une chaise vide, il y a Guillaume Pitron. Guillaume, vous êtes journaliste, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. On vous avait reçu il y a quelques mois maintenant pour votre enquête très remarquée sur les métaux rares. Mais si on vous invite cet après-midi, c'est pour vos connaissances sur l'empreinte de l'industrie numérique sur l'environnement. Vous avez d'ailleurs publié un livre à ce sujet, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et dans ce monde numérique très polluant, le principal coupable s'appelle Data Center. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de saluer mes précieux comparses, Quentin Lui et Manon Mariani, responsables d'un quart des émissions de CO2 d'Île-de-France avec ses requêtes ChatGPT. Bonjour mes champions.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Alors maintenant, est-ce qu'au moins, après avoir demandé 30 fois à ChatGPT, vous savez maintenant à quoi ressemblerait cet enfant que vous auriez? On met le conditionnel, parce que pour l'instant, Pedro Pascal n'est pas au courant.
Avec...
Avec l'acteur qui est aussi votre idole. Vous savez à quoi il ressemblerait?
Oui, mais c'est moche.
Attendez,
à chaque fois,
vous avez essayé ça?
Ce qui m'aide... Non,
avec Pedro Pascal.
Mais non, je vais essayer ça.
Ah. Avec le...
Pas avec Pedro Pascal.
Elle l'a essayé. Diverses autres personnalités qu'on ne peut pas citer.
Voilà.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un data center unique en Suède, puisqu'il se vante d'être le premier centre de données écologique.
Écologique. Disons, Quentin, c'était pas, je pensais pas que ça serait si drôle, cette blague sur un centre de données écologique. Mais non, ça vous fait beaucoup rire. Face à vous, Guillaume Pitron, il est avec moi ici le seul vrai écolo de la bande. Le seul qui, comme moi, fait le choix de sacrifier son épargne et peut-être aussi l'avenir de ses enfants, les petits lui, pour rouler en électrique. Or, croyez bien, c'est pas par plaisir, c'est un deux roues qu'il faut sans cesse recharger, qui accélère certes un peu mieux qu'un vélo Gaïa, mais guère plus. Non, si avec Quentin nous avons franchi le pas de l'électrique, c'est uniquement par souci de l'environnement. Un véritable sacerdoce que Quentin va d'ailleurs bientôt compenser en achetant un kart. Quentin, chaque après-midi...
Je ne sais pas quelle
pas
marque c'est.
Mais... Vous m'avez dit que vous aviez un petit budget. Alors c'est une tondeuse à gazon. Quentin, chaque après-midi, vous partez dans les rues de Paris pour faire réagir les passants à notre mot du jour. Alors, les data centers, ça leur évoque quoi aujourd'hui?
Je me suis rendu en scooter électrique.
Évidemment.
À La Courneuve. Oui, alors le patron du café a tiré une rallonge pour que je puisse rentrer cet après-midi et vous délivrer ce micro-trottoir. Pourquoi La Courneuve? Car se termine sur place le chantier du Paris Digital Park. Avec, ça va devenir le plus puissant data center de France. Je suis allé discuter avec les Courneuviens et Courneuviennes de leur tout nouveau data center.
Vers 16h30, face à l'impossibilité de recycler un bon vieux quiz sur les data centers, sachant que nous n'avons jamais fait d'émission sur les data centers, Gérald Arnault, mon auteur, gentleman farmer, qui goûte de plus en plus aux joies du télétravail depuis sa résidence secondaire en Charente-Maritime, a dû se rendre à la cruelle évidence. Il allait devoir ouvrir son laptop, poser les boules de pétanque et rédiger un quiz tout neuf de A à Z. Après ce quiz, vous retrouverez évidemment le grand bilan hebdomadaire du CV sévère mais juste professeur Rollin. Après 17h, on enclenchera la marche arrière, direction aujourd'hui 1970. Toute la pluie tombée sur Sacha Distel et Jean-François Bizot lançait le magazine culte actuel, le magazine underground de la contre-culture. Mais avant ce Zoom Zoom Back, le Zoom Zoom Now, à la découverte des data centers. Oui, on décline, on
c'est
a une franchise,
pire.
On décline. Guillaume Pitron, pourquoi ces data centers sont-ils devenus un enjeu économique, écologique et aussi architectural ?
Économique parce que ce sont les nouvelles fermes de données de l'ère contemporaine. Il y a plus, on ne parle pas de céréales, on parle de données qui sont des actifs extrêmement valorisés. Et donc c'est un enjeu économique de savoir où les stocker. C'est un enjeu écologique parce que ces data centers, on parle en français de centre de stockage de données, consomment de plus en plus d'électricité, collectivement, à l'échelle mondiale. Architectural, parce que ce sont des gros entrepôts à données, c'est pas forcément très beau, mais il y en a des très beaux, s'il y a des concours du plus beau data center de la planète, ça existe.
Oui, quitte à les faire gros, autant les faire beaux.
Voilà, et absolument, mais j'en ai vu certains qui sont vraiment magnifiques, mais donc c'est pas toujours beau, et donc architecturalement, il faut bien aussi faire en sorte qu'ils interagissent le mieux possible ou le moins mal possible avec les hommes qui habitent autour et à côté.
On va y revenir, mais j'ai déjà envie de savoir quand même... J'ai l'impression que la technologie évolue et qu'on stocke de plus en plus de données sur des choses de plus en plus petites. Est-ce que avec les nanotechnologies, on va pas retrouver... Est-ce que les data centers de demain vont pas être minuscules ? On peut pas rêver de ça ?
Demain, c'est quand ? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Donc en fait, effectivement, il y a une réduction de la taille de ces centres de stockage de données à données stocké égal.
Oui, évidemment.
Et donc, on a effectivement cette réduction qui est réelle, avec une optimisation de l'efficacité du stockage et de sa consommation électrique. Pour autant, les systèmes énergétiques, eux, ne sont pas réduits.
Ouais,
donc,
ouais.
Il reste quand même toute cette partie-là qui est, elle, très importante. Mmh. Et puis surtout, on stocke mieux avec moins, mais on consomme toujours davantage de données. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond en économie et en numérique. Et aujourd'hui, notre propension à consommer toujours plus de données, les fameuses requêtes ChatGPT, eh bien, en fait, elles vont plus rapidement que la capacité de la technologie à réduire ce même stockage.
D'accord.
Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est pas prêt de voir disparaître ces grosses infrastructures à l'échelle de la planète et encore moins à l'échelle du territoire français.
C'est la conscience soulagée après les découvertes des chiffres concernant les data centers que Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, se présente à nous cet après-midi. Lui qui croyait être responsable par l'absurdité écologique de ses nombreux sauts de puce le temps d'un week-end, Las Vegas, Séville, Ibiza, du cataclysme climatique en cours, il réalise grâce à cette émission qu'il n'y est quasiment pour rien.
En plus, lui, je plante des arbres.
En plus, vous faites pour
mais
compenser.
Mais comment ça, quand ?
Mais pas moi, je donne de l'argent là pour qu'on plante des arbres.
Oh, mais... oh là là. De toute façon, on n'a pas de preuves, mais bon.
Lui,
je donne de l'argent. C'est défiscalisé, ouais. C'est sûr.
Voilà.
Il n'est donc pour rien au cataclysme climatique en cours, lui dont les seules requêtes Google, toujours les mêmes, temps de cuisson rôti de bœuf, recette béchamel facile ou Laetitia Castanu, ne représentent que 0,0001% de la consommation d'électricité d'Île-de-France. Cyril, racontez-nous maintenant que vous vous sentez soulagé, les data centers, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez une cathédrale immense, mais sans vitraux, sans cloche et sans fidèles.
Wow.
Un bâtiment anonyme, souvent en périphérie, là où il ne se passe jamais rien.
C'est un peu d'horreur, le truc.
De toute façon, choisi par notre réalisateur décroissant, Ghislain Fontane. Toute notre vie est là, tout ce qu'on poste, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on sauvegarde. Bienvenue dans le monde des data centers. À l'origine, ce n'était que de simples salles de serveurs climatisées où on installait des ordinateurs géants. Ça existait dès les années 60, chez IBM ou même à la NASA.
Mais Internet a évidemment tout changé.
Oui, et à partir des années 90, tout s'accélère. Désormais, il faut stocker nos mails, nos photos, nos vidéos et puis les données des entreprises aussi, bien sûr. Et plus Internet grandit et prend de la place dans nos vies, et plus il faut agrandir ces entrepôts. Aujourd'hui, il existe près de 12 000 data centers dans le monde, dont plus de 300 ici en France. Les plus grands appartiennent à Amazon, à Google, Microsoft ou Meta, les géants américains de la tech qui ont investi l'an dernier plus de 200 milliards de dollars dans ces centres de données, car la donnée, c'est le nouveau pétrole. Et le problème, c'est qu'à eux seuls, ces data centers consomment près de 2% de l'électricité mondiale. Pour vous faire une idée, vous l'avez dit Mathieu, c'est autant que tout le trafic aérien, et cette consommation pourrait doubler d'ici l'année prochaine. Alors d'où ça sort les data centers ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de cette histoire.
Merci Cyril. Guillaume Pitron, 300 data centers aujourd'hui sont donc implantés en France. Ça veut dire qu'on a tous un data center à côté de chez soi ou ils sont dans des zones très précises
Alors, on ne les a pas tous à côté de chez nous. Ils s'en trouvent dans le centre de Paris, puisqu'on parle ici depuis Paris. On en trouve dans le 11e arrondissement, dans le Marais notamment. Mm-hmm. Mais oui, absolument.
Où ça ? Dans des hangars ?
Eh bien, en fait, ils vont être soit dans des sous-sols, soit dans des immeubles qui ont été, dont la destination a été changée.
Bah, vu le prix au mètre carré dans le Marais.
Derrière l'immeuble, il y a en fait un centre de stockage de données. Vous avez d'ailleurs des riverains qui se plaignent du bruit qui est généré par le data center. Mais souvent, on les trouve plus fréquemment dans la plaine commune, au nord de Paris. Et on va également les trouver beaucoup dans les Hauts-de-France. Et on va les trouver à Marseille. Alors pourquoi ? Parce que ça correspond en fait à une politique des communes en question qui souhaitent attirer en fait ces centres de stockage de données. Le foncier va être peu cher, ou en tout cas moins cher qu'ailleurs. L'électricité va être abondante, où le raccordement d'électricité va être possible et garanti par RTE, qui va permettre ce raccordement-là. Et puis aussi Marseille, parce que c'est l'arrivée des câbles sous-marins. Il faut savoir que tous ces centres de stockage de données traitent de la donnée qui, elle, n'arrive pas par satellite, très peu, mais qui arrive par câble. 500 câbles sous-marins qui quadrillent la planète.
Les câbles des États-Unis arrivent à Marseille ?
Non, ils arrivent plutôt par la côte ouest française.
Et pourquoi vous avez dit alors à Marseille
Oui, mais les câbles australiens, ils n'arrivent pas par la côte ouest.
Bien vu, monsieur Pitron.
Du Moyen-Orient et les câbles africains notamment, certains, et puis les câbles asiatiques en général. La route qui part d'Australie passe par Singapour, remonte par le canal de Suez et arrive à Marseille. Et donc Marseille est une région, une ville, en fait, où les centres de données sont importants parce que c'est l'arrivée des câbles.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Il arrive parfois qu'un invité qui annule à la dernière minute soit remplacé par un invité mieux que celui qui nous pose en lapin. C'est le petit miracle qui s'est produit pour cette émission sur les data centers, puisque Guillaume Pitron, l'auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, est avec nous. Guillaume, je voyais que la France était le troisième pays européen en nombre de data centers après l'Allemagne et le Royaume-Uni, et au sixième rang mondial après les États-Unis, la Chine et le Canada. Est-ce qu'on est en retard ou on est bien dans le rythme pour l'instant ?
Je dirais qu'on est dans le rythme. Après, comme on a tendance à se comparer en permanence aux Américains, on a l'impression d'être en retard. Et c'est vrai que les Américains ont démarré très très vite sur ces sujets-là. Ils ont une Silicon Valley des data centers qui se trouve à Ashburn, au nord-ouest de Washington, par laquelle passe 70% de la donnée que nous produisons, que nous consommons. Et donc ça en fait évidemment un hub très important. Par rapport à ce type d'exemple-là, on se voit en retard. Pour autant, si on se replace dans le contexte mondial, la France n'a pas de quoi rougir. Elle a pas mal d'avantages pour cela. Elle a un gouvernement, une politique publique qui pousse beaucoup pour en fait que ces données soient territorialisées sur le territoire français. Et puis on a une électricité qui est d'origine nucléaire, avec tous les défauts qu'elle a, mais qui est décarbonée. Et ça, c'est un vrai argument aujourd'hui pour dire aux industriels, aux entreprises de data centers, venez vous installer chez nous, parce que vous allez avoir un argument en faveur du climat.
Mais justement, qui les construit, ces data centers ? C'est des entreprises privées ? C'est l'État ?
Oui, alors non, c'est pas l'État, ce sont les entreprises privées. Même l'État, pour le compte de ses armées, par exemple, a besoin de certains serveurs qui vont être, dont la construction va être sous-traitée à des entreprises. Donc c'est vraiment le métier de les construire. Avant cela, il faut aussi savoir où on va les installer. Et donc pour cela, il y a des agences immobilières spécialisées en data center qui va vous dire, écoutez, voilà, vous cherchez un terrain qui fasse telle superficie. Moi, je peux vous recommander tel coin plutôt que tel autre. On peut revenir sur ces critères-là. Et puis après, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour gérer le data center au jour le jour, s'assurer qu'il fonctionne bien et que le service que vous attendez soit satisfait.
Est-ce qu'ils emploient beaucoup de personnes quand même, du coup ?
Non.
Mais non, c'est ça le truc. Ça ne crée pas beaucoup d'emplois, les data centers.
Non, pas tant que ça. En fait,
la maintenance quand même.
Oui, de maintenance.
La construction du data center, ça requiert énormément d'entreprises, de sous-traitants. Ça va prendre un an, deux ans, trois ans pour construire une grosse machine, où qu'elle soit. En revanche, gérer un data center, l'opérer au jour le jour, moi je l'ai vu parce que je suis allé notamment en Laponie où se trouvent certains data centers. Ce n'est pas tant de monde que ça, en fait, qui gère cela. Alors, d'abord, il y a la sécurité. Il faut bien des gardes qui soit là pour s'assurer que tout un chacun ne rentre pas dans le data center et débranche un fil. Mais ce sont des informaticiens qui s'assurent que le système fonctionne en permanence. Ce sont des spécialistes de la gestion des fluides pour que le refroidissement soit permanent, parce que ça chauffe un data center. Mais c'est pas tant de monde que ça, finalement.
Pardon, mais les data centers implantés en Laponie, c'était pour le froid ? L'idée, c'est de se dire, tant pis si c'est loin, au moins ça coûte moins cher à refroidir ?
En fait, un data center, ça chauffe. Un serveur, ça chauffe. Ouais. Ça chauffe à 60 degrés. Donc, si vous voulez évoluer dans un environnement environnement de travail qui soit à peu près supportable, il faut faire baisser la température à 25-27 degrés. La différence, c'est un système de climatisation très énergivore, et la clim va représenter 30-45% de la consommation d'électricité du data center. Donc si vous le mettez là où il fait froid naturellement, là où, je caricature, mais vous ouvrez la porte du data center et vous laissez le blizzard à moins 40 degrés, comme c'est le cas en Suède notamment, rentrer dans le data center et refroidir vos vidéos de chat. Et bien du coup, vous gagnez, vous consommez moins d'électricité. Donc c'est le pari fait par certains, notamment par Meta, qui en 2013, à l'époque c'était Facebook, a installé les data centers pour WhatsApp, pour nous, là-bas.
Pour qu'on comprenne bien, technologiquement, le fait qu'il soit en Laponie ou en Suède, si on est un citoyen américain, ça change rien, ça va aussi vite, on va pas avoir l'info moins vite, non, ça, c'est instantané, c'est en une fraction de seconde. C'est la vitesse de la lumière, dites-moi.
De Paris, dans ce studio, jusqu'à Luleå en Suède, où se trouvent nos comptes WhatsApp, littéralement.
Ouais.
Il y a, l'information va à Luleå et revient jusque dans son studio en 30 millisecondes. 30 millisecondes, c'est 4 fois moins que le clignement d'un œil. Donc ça va extrêmement rapidement. Wow. Ça va à 80% de la vitesse de la lumière. Si jamais vous êtes américain, vous avez en fait vous connectez à un data center de Meta qui se trouve aux États-Unis, notamment se trouver vers Prineville dans l'Oregon, et puis ça va mettre peut-être quelques millisecondes de plus ou quelques millisecondes de moins. Donc pour moi et pour vous, les consommateurs, ça ne change rien. Mais pour le business, cette latence, cet enjeu de latence peut être très important.
Et vous, aviez-vous conscience de l'impact écologique et énergétique des data centers ? Pouviez-vous imaginer que chaque fois que vous tapiez Manon Mariani est-elle la fille de Thierry Mariani ? Sur Google, vous contribuez à l'extinction d'une espèce de dauphin. Ne le faites pas. Quentin est allé vous faire prendre conscience de votre inconscience.
Attention. Je suis sur l'A86 en direction de La Courneuve sur un scooter électrique qui tient définitivement très bien la route. Alors que je slalome à la sortie d'un tunnel, alors que je slalome à la sortie du tunnel, je tombe sur le Paris Digital Park, le tout dernier data center qui vient d'ouvrir, qui termine en tout cas les travaux en région parisienne. C'est tout simplement gigantesque. Ce data center est le plus puissant de France. Il abrite une surface de 40 000 m² d'espace informatique. C'est la superficie de 7 terrains de foot répartis sur 4 étages. Extérieurement, on est entre le Stade de France et le Stade Ni. Vous savez, celui qui avait servi de décor à la cérémonie des JO de Pékin en 2008. Je me gare au café le plus proche et je fais connaissance.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Malik.
Malik, tout le monde vous dit bonjour quand ils arrivent dans le café. Ça check. Les petits aussi, ils check.
Exactement. Bah, on les a vus grandir. Ouais. On se connaît, on fait partie du quartier.
Je fais lire à Malik le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Ah, data center.
Vous savez pourquoi je suis venu là ?
Exactement. Bon, ça fait une sorte de soucoupe volante, vu du ciel, on va dire. Après, nous, on se pose des questions. Pourquoi c'est toujours à La Courneuve ? On a des gros bâtiments qui viennent s'installer, comme ça, comme la Banque de France, comme les archives, comme data center. Mais malheureusement, en termes d'embauche, on ne voit jamais les gens de La Courneuve bosser. Et c'est malheureux pour... on subit les travaux, les détournements de circulation pendant des mois et des mois. Et puis derrière, il n'y a rien, y a rien de spécial pour nous.
Saïed, lui, est étudiant. Il veut bosser dans le luxe, autre génération, plus jeune. Voyons ce qu'il dit de...
Data center, qu'est-ce que ça m'évoque ? En vrai, je trouve que ça fait plaisir, parce qu'on est dans une ville, entre guillemets, mal réputée. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un terrain de foot, un style forme un peu ronde, style Ligue des Champions. Dedans, je pense que ça doit être énormément grand, avec plein de données, comme des étagères où dedans il y a stocké plein d'informations. Comme dans une petite série d'informatique.
Et franchement, ça m'intrigue aussi. Alors, je sonne à la porte noire, toute neuve, qui ressemble à l'entrée d'un tunnel futuriste. On m'ouvre, et l'intérieur, tout est protégé. On dirait l'entrée d'un bunker. Pour ceux qui ont la ref, il y a un petit côté Lumon Industry dans la série Sévrance. Je parle à une personne de l'accueil à travers une vitre. Bonjour, je travaille pour France Inter.
Je vais essayer d'appeler, je vais demander.
Merci.
Monsieur, faudra patienter, il y a quelqu'un qui va arriver.
Trop bien, merci.
Ouais.
Et autant vous dire que mon petit côté cache investigation s'arrête ici, puisque personne n'était là.
Mais non,
était là pour
personne n'est venu.
J'ai juste appris une chose, qu'il y avait 5000 km de câbles et 630 000 serveurs. Je vous avoue que j'ai même du mal à m'imaginer tant le chiffre est impressionnant. Alors je retourne à ce que je sais faire de mieux, parler avec les gens dans la rue. J'aperçois quelqu'un derrière le portail du petit immeuble juste en face. Bonjour, bonjour.
Bonjour, c'est ma radio.
C'est votre radio ?
France Inter, c'est ce que j'écoute, oui.
Enchanté, quel est votre prénom ?
Mon prénom, Maud.
Voyons ce que Maud entend par...
Mais data center, il y en a en face, là.
Là, vous êtes... C'est votre voisin, quoi. Vous êtes
oui,
pile
oui,
devant,
oui.
vous.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, déjà ?
J'aime pas tellement le bâtiment.
Pourquoi ?
Non. Le soir, quand c'est allumé, ça me fait penser à un nid d'abeilles.
Moi, je demande aux gens s'ils savent à quoi ça sert.
Je croyais que c'était pour, ramasser les infos. Je sais pas. On est dépassés. Et moi, je vais vous dire, je cherche pas tellement à comprendre. Ça me dépasse.
Je vois qu'elle est dépassée, mais pas si loin sur le fait de ramasser des infos. Alors, je lui explique le stockage de données.
Les données informatiques.
Là, j'entendais votre téléphone sonner.
Oui.
Vous avez des photos dans votre portable.
Oui.
Quand vous envoyez des mails.
Oui.
Quand vous envoyez un mail, la messagerie, elle est stockée quelque part.
Bien sûr.
Ça sert à ça, ça.
Oh là là, c'est des espions. Oui, c'est des espions.
Pourquoi ?
Avant, on faisait des trucs que personne ne savait, maintenant...
Maintenant, tout se sait. Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme en pleine forme.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Alison.
Alison, vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
C'est quoi votre truc à vous dans la vie, votre métier ?
Là, je suis prof, je reviens du collège à côté, là, à 5 minutes.
Je lui demande ce que lui évoque cet immense bâtiment au cœur de la Courneuve.
Eh bien, ça me fait penser... Enfin, j'ai l'impression que, finalement, tout ce que nous, on a, c'est stocké physiquement dans un endroit. Enfin, ça veut dire que ça prend de la place. Ce que j'essaie de faire parfois, c'est supprimer mes mails, vider les corbeilles et tout. Mais c'est tout, quoi.
Comme nous, quoi. Hein. Nous parlons du fait que ce data center consomme autant qu'une ville et que la consommation de tous les data centers du pays représente 11% de la consommation électrique totale en France. Je lui raconte le décalage que j'ai observé aussi entre les générations et la difficulté à comprendre le sens de ce genre de gigantesque stade informatique. Elle voit très bien.
En fait, ma mère, par exemple, qui n'arrête pas de dire que tout est stocké, tout le monde sait tout, il faut pas partager des informations sensibles, etc.
Ils ont peur qu'on regarde dans leurs données.
Voilà,
quoi.
Exactement. En tout cas, dans mon entourage, c'est ça, ouais.
Sur quel exemple ?
Par exemple, elle va pas m'envoyer son avis d'imposition par mail, elle va me l'envoyer par la poste.
Oh non.
Donc voilà, sauf que moi, je vais le rescanner en plus derrière, donc ça n'a pas de sens.
Et le scan qui ira directement dans le cloud. Évidemment, je reviens sur une chose qu'elle m'a dite, et elle n'a pas tort, Internet prend de la place. Je veux dire, on a physiquement un stade à 5 km de Paris dédié à ça. On croyait le nuage léger, on ajoutait du stockage sans y penser. En fait, il s'avère qu'il pèse des tonnes.
Guillaume Pitron, vous avez sans doute beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez où vont toutes ces photos qu'on a dans nos portables. Ils ne sont pas dans nos portables, ils vont dans le cloud, donc ils sont stockés quelque part. Et même quand on les met dans la corbeille, ça reste toujours quelque part où on peut faire disparaître des photos ou des données.
Moi, je pense que l'invisible ne s'efface jamais.
Ah voilà, c'est ça.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, cet invisible au sens de l'Internet qui est censément impalpable, etc. Et on revient sur ce cloud qui finalement pas si impalpable que ça. De surcroît, qu'est-ce qui disparaît véritablement. Et donc, on peut se poser la question de notre vie privée. Ça a été évoqué dans ces témoignages, alors que tout laisse une trace quelque part, où il est possible que, même quand c'est effacé, en fait, ça laisse encore une trace, qui pose aussi la question, d'ailleurs, de l'impact environnemental de la société de surveillance. Est-ce que demain, vous avez des partis politiques qui seront créés pour, en fait, au nom de l'écologie, de lutter contre la surveillance de nos sociétés, de nos vies ?
Je vous montre quand même, enfin, je vais décrire, mais je vais montrer aussi la photo que j'ai pu prendre de ce data center.
Ah oui.
C'est vrai qu'on dirait vraiment un stade.
Ah ouais, on dirait un stade. Et en haut, on a une sorte de petite cheminée noire.
Qu'est-ce que c'est que ces cheminées ?
Et je pense que c'est la climatisation qui doit servir à refroidir.
Alors là, je le vois mal d'ici. Ce qui est certain, c'est que vous avez évidemment des évacuations qui sont nécessaires pour qu'en fait l'air chaud du data center soit évacué
du bâtiment,
ouais. Tout simplement. Et puis vous avez une architecture qui va être pensée en interne et qui va être optimisée de façon à ce que les flux d'air chaud et les flux d'air froid soient bien distincts, de façon à ce que...
Il y a des architectes spécifiques au data center aujourd'hui ?
Mais bien sûr, et ce sont même des gens qui sont très spécialisés et qui vont en fait, en fonction de l'architecture, permettre à un centre de stockage de données de baisser son PUE. Ce qu'on appelle le PUE, c'est le Power Unit Efficiency, c'est-à-dire en fait la quantité d'électricité consommée par rapport à un octet de données stockées. Et tout ça, c'est l'architecture. Ce qui est très intéressant, on parle d'architecture intérieure, mais l'architecture extérieure, c'est que la photo que vous montrez, c'est plutôt beau,
oui,
en fait.
Oui.
C'est pensé comme
futuriste.
Tel.
Et on voit bien qu'il y a un décalage entre les plus jeunes et les plus anciens, qui eux voient une sorte de danger de surveillance. Les plus jeunes, finalement, ça s'inscrit dans un décor, ils sont plutôt contents en disant, c'est à la Courneuve, on n'a pas une ville qui est très bien réputée, on a un stade du futur informatique. Ouais. Quoi.
Alors, vous n'aurez jamais un concert qui se produira à l'intérieur, et vous n'aurez jamais le PSG qui ira jouer à l'intérieur. Donc c'est peut-être le seul problème, c'est-à-dire que ce sont aussi des espaces qui deviennent ils sont par définition déshumanisés à l'intérieur, c'est une affaire de robots, et ça déshumanise à l'extérieur. Vous avez des sociétés, des villes, notamment, je suis allé à Ashburn aux États-Unis, où quand vous avez un pavillon et que vous avez comme voisin à droite un groupe Equinix, pour ne pas le citer, mais ça pourrait être d'autres groupes, je ne sais pas s'il est d'ailleurs lui spécifiquement à Ashburn, mais ça fait partie de ces grandes sociétés de stockage de données, et puis à droite vous avez Amazon Web Services ou bien Microsoft Azure qui en fait stocke des données, en fait vous ne vous sentez pas vraiment chez vous. Ça s'est passé notamment à Amsterdam où il y a eu un moratoire en 2019 sur l'accroissement de l'espace pris par ces centres de stockage de données à Haarlemmermeer, qui est une ville qui se trouve juste à côté d'Amsterdam, parce qu'en fait ils avaient perdu en fait la main sur l'évolution de l'infrastructure et de la gestion de l'urbanisme. Et à un moment ils ont mis un moratoire pour dire attendez, on va se décider ensemble, on va se concerter, on va se dire est-ce qu'on en met à droite, est-ce qu'on en met à gauche, et jusqu'où on va par rapport aussi à la consommation d'électricité que ça nécessite, par rapport, parce que forcément ils veulent que ce soit vert l'électricité, donc il fallait des éoliennes
pour donc pouvoir il y a des accompagner. Éoliennes partout autour.
Mais vous pouvez pas parce que vous avez Ripple, l'aéroport qui est juste à côté, vous n'avez pas envie que les ailes de l'avion se prennent dans l'éolienne, donc il fallait des panneaux solaires qui prennent un espace fou. Donc tout ça, ça penser comme un tout, ça prend énormément d'espace, et donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une politique publique, urbanistique, qui permette de remettre l'homme au centre de tout ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Vous me connaissez, je donne rarement mon avis dans cette émission, pas par manque de courage, mais par passeport suisse.
Ça ressemble vachement au manque de courage. Hein.
Quentin, vous démarrez ce quiz avec 3 points de pénalité. La neutralité est mon ADN. Pourtant, aujourd'hui, au nom de tous ceux qui se permettent de penser outside the box, comme moi, j'ai décidé de monter sur la barricade du désaccord. Guillaume Pitron, cessons cette cabale anti-data center. Certes, il y a peut-être un léger sujet concernant la consommation d'eau de ces machines, mais on va peut-être un peu vite en besogne pour taper sur le progrès et l'entrepreneuriat, et ça, je ne suis pas le seul à le penser. Comme le disait Pascal, pas le philosophe du 16e, mais celui du 21e.
Aujourd'hui, ce sont les voitures, les jets privés, demain, ce seront les piscines, les jacuzzis ou le golf, avec l'argument que l'eau est faite pour boire. La rancœur, le ressentiment, l'aigreur ou la jalousie nourrissent les passions tristes des Robespierre de l'écologie.
Un édito qui m'avait personnellement foutu les poils et qui nous permet de relativiser l'impact environnemental des data centers qui ne sont pas le diable non plus, d'autant que le réchauffement climatique...
Il est là ! Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
Bien dit mon Pascal. Et n'oublions pas les bénéfices énormes de l'IA sans qui Quentin ne pourrait pas faire 1m82 dans sa bio, bouillaveur du 61, son profil Tinder secret. Voici donc un quiz à la gloire des plus beaux data centers du monde. Et tout commence comme dans un cauchemar ou un week-end de Pierre Courade, votre conjoint vous a offert une smartbox escapade à Saumur. Vous tirez la gueule, mais vous y allez, quoi. Comme le mari de Pierre, vous prenez sur vous et vous ne lui faites pas remarquer que vous n'en avez rien à foutre, vous, des bas-reliefs romans de l'abbaye royale de Fontevraud. La seule abbaye royale qui mérite une visite étant celle, chacun le sait, de Thiron-Gardé, parce que parfois le dimanche matin, on peut voir Stéphane Bern en slip. C'est donc à reculons que vous partez découvrir le Saumurois, terre de contraste et de mystère, sans savoir que bientôt, ce territoire hébergera un data center unique en son genre, puisqu'il sera installé dans une grotte troglodyte. Puisqu'il sera entreposé dans des conteneurs maritimes plongés dans l'eau. Ou parce qu'il sera installé au fond d'une cuve de Saumur Champigny dont il régulera la fermentation après chaque vendange.
B.
Troglodyte.
B.
C.
Mais ne dites pas n'importe quoi. Arrêtez de donner des lettres, dites la réponse qui vous semble la bonne.
La réponse A.
La réponse A. À vous deux, vous avez la bonne réponse.
A et B.
Non mais oui, mais c'est trop tard. C'était les réponses A et B. Le premier data center tourangeau sera installé dans une grotte, comme Michel Siffre, ce spéléologue dont on a parlé mardi. Et les machines seront entreposées dans des conteneurs maritimes plongés dans l'eau, une belle preuve de l'ingéniosité made in France. Et justement, on reste au pays de Voltaire. Direction Jouy-en-Josas. Et autant vous le dire, Pierre, que je vois s'agiter en régie, on se fout de savoir que vous nous conseillez l'iconique musée de la toile de Jouy et l'immanquable maison de Léon Blum, car si nous partons ce matin dans ce Zoom Zoom Test à Jouy-en-Josas, c'est parce que les Jovassiens, c'est comme ça qu'on dit, vont surtout avoir la chance de vivre à côté d'un data center entièrement dédié au stockage de films coquins, dont l'intégralité des œuvres de Richard Allan, dit que de béton. Du premier, on l'embrasse, c'est un auditeur.
Bien
du premier data center.
dont la chaleur est recyclée dans un crématorium, ça c'est original et bien pensé, ou d'un centre de données refroidi à l'huile de friture.
Ah, c'est
ça, friture.
Le crématorium.
Non, c'est friture.
Maintenant, vous êtes plus friture que crématorium.
Non, j'ai dit crématorium.
Ah, vous,
moi.
Le crématorium. Oui, ça serait
moi,
logique.
Friture, ouais.
Malheureusement, la logique n'a pas sa place dans ce test. C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Effectivement, découvrez le premier data center refroidi à l'huile de friture. Encore un business que Quentin n'aura pas vu venir. Hop, hop. Vider des friteuses et faire des vidanges pour refroidir les serveurs.
C'est capleurie, c'est capleurie.
Non, Quentin, ça s'appelle le progrès. Il faudra d'ailleurs demander au propriétaire de l'excellent restaurant libanais, le Zaman, où nous avons nos habitudes, s'ils n'ont pas dernièrement sous-loué leur cave à OpenAI. Ceci expliquerait peut-être le doux fumé qui nous accompagne à chaque fois que nous sortons de l'établissement et qui nous colle à la peau une bonne douzaine d'heures. Pour la prochaine question, retournons à Paris afin que Manon arrête d'hyperventiler après cette petite excursion au-delà du périph. Figurez-vous qu'un monument historique parisien est chauffé grâce à la chaleur recyclée d'un serveur de cloud computing. Quentin, on rappelle brièvement ce qu'est le cloud computing.
Extremely large.
Bon, tant pis, on rappelle pas, on fera 100 pour aller directement à la question.
Parler de extremely large télescope, c'est ça?
Non, Quentin. Quel monument parisien est chauffé par les data? Est-ce la piscine de la Butte aux Cailles? Est-ce la piscine des Buttes Chaumont? Ou est-ce tout simplement, vous êtes assis dessus, dedans, la maison de la radio?
C'est
Butte aux Cailles.
Si la maison de la radio est
Butte
chauffée par les data, elle est très mal chauffée.
Butte aux Cailles.
C'est la piscine de la Butte aux Cailles. Bravo Quentin, vous la fréquentez?
Ouais, je nage de temps en temps, ouais, quand je m'entraîne.
C'est dans quel arrondissement, Quentin?
La Butte aux Cailles, c'est le 14e, mais je peux vous emmener quand vous voulez.
C'est le 13?
Dites-vous bien, Pierre, qu'à chaque fois que vous tapez sur le bon coin, maillot de bain homme peu porté, vous faites peut-être frémir un des serveurs situés dans le sous-sol de cette piscine de la Butte aux Cailles qui contribue à couvrir 10% des besoins de consommation de l'établissement. Enfin, une question qui va faire plaisir à tous les becs fins présents autour de cette table. Grâce à l'énergie d'un data center, laquelle de ces mises en bouche peut être élaborée? Un roulé de jambon macédoine? Un toast à la terrine de truite ou un apéricube goût basilic?
Je comprends rien. J'ai pas suivi. Je vais dire apéricube. Je vais dire apéricube parce que ça me fait rire.
Pour vous, il y a un data center quelque part dans le monde qui permet de faire facilement un apéricube goût basilic.
Et bah peut-être.
Mais pourquoi je comprends pas en fait?
Et vous verrez parce que là c'est vraiment. Là,
bon, je sais pas.
Vous pouvez répondre au hasard. C'est dommage. Le hasard aurait dû porter votre choix sur la réponse B.
La
terrine de truite. Réponse B, bienvenue en Norvège. Vous aurez bien évidemment reconnu cet incontournable du folklore norvégien, suédois et danois qu'est le générique de Game of Thrones. Bienvenue dans ce pays où les gens boivent leurs spritz dans le crâne de leurs ennemis. En Norvège, où la plus grande ferme d'élevage de truite est reliée à un data center qui lui fournit la chaleur nécessaire à son activité et auquel, en retour, il donne des hectolitres d'eau fraîche nécessaires au refroidissement des serveurs quand Quentin passe trop de temps sur les sites de bouillave. Vous avez compris l'idée? Vous avez compris la synergie?
C'est vous qui n'avez pas compris.
Je ne sais pas par quel truchement vous êtes passé.
Quentin, n'utilisez pas des mots que vous ne connaissez pas. Victoire de Manon Mariani.
Ah bon?
Zéro. Victoire 0 à moins 1. On a touché le fond. On a touché le fond du gai savoir. Il est là.
Parce que j'étais là,
on ne peut plus que remonter du fond de la piscine après ce quiz.
C'est horrible parce que je devrais gagner ça.
Oh, ça va, vous avez eu moins 3.
Ouais, ouais.
Pour rébellion.
Toujours plus gros, toujours plus nombreux. Zoom sur les data centers cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec le journaliste Guillaume Pitron, auteur de L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Guillaume, je lisais cette donnée du think tank de Jean-Marc Jancovici. Le secteur numérique pourrait représenter 25% de l'électricité mondiale bientôt, en 2025. Donc cette année, quelles en seront les conséquences pour nous?
Alors d'abord, il y a beaucoup de chiffres qui circulent hein, sur ces sujets de consommation d'électricité. Il faut savoir quelques chiffres importants, c'est qu'il y a les data centers, il y a le numérique. Et pour nos auditeurs, pour qu'ils s'y retrouvent, ils entendront dire que les data centers consomment tant d'électricité, et l'électricité du numérique, c'est plus large que l'électricité des data centers. Parce que dans le numérique, vous avez par exemple la mine qui sert à extraire les métaux, on a parlé de terres rares la fois dernière, qui eux-mêmes servent à fabriquer les data centers. Donc c'est un ensemble de choses quand on parle du numérique et de l'électricité. Et puis après, il y a les émissions de CO2. Parce que tout à l'heure, ça a été évoqué. L'électricité, on considère que 10% de l'électricité mondiale aujourd'hui sert au numérique et 2% de l'électricité mondiale sert au data center. Tout cela, ça se transmue en émissions de CO2 selon que c'est une centrale électrique ou une centrale solaire ou bien une centrale à charbon qui évidemment est à la base de la production d'électricité. Et là, on est sur un chiffre qui est de l'ordre de 2,5-3% des émissions de gaz à effet de serre. Si on continue dans la logique qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire de continuer de festoyer à l'hôtel de la donnée en regardant n'importe quelle vidéo de chat parce que ça nous distrait et en demandant n'importe quoi à ChatGPT, mais ça, ce ne sont que les consommateurs parce qu'il faudrait qu'on regarde ce que font les entreprises, comment elles utilisent la donnée, ce que font les États, comment ils utilisent la donnée. En fait, on va vers des chiffres qui sont de l'ordre du doublement de la consommation d'électricité et des émissions de CO2 associées à l'horizon des 10, 15, 20 prochaines années. Ça dépend des études. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une phase qui est ascendante où ce sujet est en train de devenir un sujet écologique majeur.
Mais justement, j'ai lu que Elon Musk voulait importer de l'étranger une centrale électrique pour son futur data center aux États-Unis. C'est possible de faire ça? Et qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi il fait ça?
Alors, il parle peut-être d'une centrale nucléaire, j'imagine. En fait, je suppose que c'est une centrale nucléaire, ce qui se passe, c'est que l'industrie aujourd'hui, elle a conscience de sa mauvaise réputation. Elle a conscience que ça commence à faire un peu désordre de réchauffer les vidéos de chat à l'électricité issue d'une centrale à charbon. En 2017, Greenpeace avait commencé à faire voler des ballons dirigeables au-dessus du siège social en Californie de Facebook en disant « How clean is your cloud ?» C'est ce qui était écrit sur le ballon dirigeable. « Il est propre comment votre nuage ?» Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui l'industrie qui cherche à laver plus blanc que blanc et qui, d'ailleurs, avec un réel succès, branche ces data centers sur des centrales de production d'électricité décarbonée, panneaux solaires, éoliennes, électricité issue du nucléaire, voire achète elle-même directement, intègre ses productions d'électricité à son modèle de fonctionnement de façon à pouvoir être souveraine sur sa production d'électricité. Et du coup, elle communique. Elle communique beaucoup notamment sur l'électricité nucléaire. On a le déploiement aujourd'hui aux États-Unis de plus en plus de petites centrales d'électricité nucléaire, des centrales miniatures par rapport aux gros EPR français, et qui en fait permet en fait d'accompagner le cloud, qui permet d'accompagner ChatGPT avec associés des mini-réacteurs nucléaires, mais aussi des grands réacteurs nucléaires, pour pouvoir en fait dire, regardez, mon Internet est zéro émission.
Dernière question, Guillaume Bitron, logique, est-ce que ces data centers, ils sont bien protégés?
Alors, les data centers ne sont jamais... On essaye d'éviter qu'ils se trouvent à proximité d'un aéroport, par exemple. Parce que l'un des critères, c'est qu'ils ne soient pas trop proches d'un aéroport pour qu'il n'y ait pas un jour un accident malencontreux qui fait que tout cela, vos datas disparaissent. D'abord, moi j'y suis allé, enfin j'ai pu rentrer dans certains d'entre eux, puis ne pas rentrer dans certains d'entre eux, notamment ceux de Facebook en Laponie, où vous avez quand même quelques barrages de sécurité avant de pouvoir un jour éventuellement passer la porte, quoi. Après, vous posez une question vachement intéressante. Qu'est-ce qui se passe si un data center tombe en panne? Est-ce que vos données disparaissent avec lui?
Dites-moi.
Et je vais vous répondre non. Pourquoi? Dans la majorité des cas, c'est parce qu'en fait, votre donnée est redondée dans un data center miroir. Donc si jamais le data center A tombe en panne parce que quelqu'un a débranché la prise, il y a un data center miroir, qu'on appelle souvent des data centers zombies, qui fonctionne en permanence et qui vient en fait prendre le relais immédiatement de façon à ce que vous ayez toujours accès à votre compte web, à votre série Netflix et je ne sais quoi. Donc en un sens, la donnée est relativement sécurisée parce qu'il y a un redondement de l'infrastructure.
Vous écoutez France Inter et si vous voulez savoir quelle heure il est, demandez à ChatGPT. C'est l'heure de la pièce jointe de Manon Mariani.
Oui, aujourd'hui un data center, justement, il s'appelle l'Eco Data Center et il se situe dans la commune de Falun en Suède. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est considéré aujourd'hui comme l'un des data centers les plus écologiques au monde. 20 000 m² remplis de milliers de serveurs qui stockent des terras et des terras de vie numérique. On l'a dit, nos photos, nos mails, nos vidéos, nos sauvegardes, tout ce qu'on envoie dans le cloud. Le bâtiment a été construit en bois lamellé, un matériau à faible empreinte carbone. Et puis, l'électricité ne vient pas du charbon ou du gaz, mais de barrages hydroélectriques et d'éoliennes. La chaleur produite par les machines ne part pas dans l'atmosphère, elle est captée, recyclée et injectée dans le réseau de chauffage local jusqu'à alimenter une usine de production de granulés de biomasse. L'idée de ce data center vient de l'entrepreneur suédois Leif Andersson et pour mener à bien son projet, il s'est associé avec un fonds immobilier nordique. Ce site a ouvert en 2019 et est devenu une marque à part entière, si bien qu'un notre site est déjà en construction, toujours en Suède, appelé Eco Data Center 2. Il va se situer sur un ancien site de papeterie et sera opérationnel en 2027. Derrière ce symbole vert se cache aussi une stratégie industrielle. Évidemment, l'entreprise a levé plus de 1,2 milliard d'euros et s'est associée à une start-up spécialisée dans le cloud pour créer à Falun l'un des plus grands clusters d'IA d'Europe. Alors, un cluster d'IA, je me suis renseignée, ce sont des usines à calcul, vous me direz si j'ai bon, Guillaume, capables d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle, c'est une infrastructure spéciale au même titre qu'une centrale électrique. Le but est d'aider à l'entraînement de ces modèles d'IA énergivores, mais là, en l'occurrence, dans un environnement bas carbone. Cette année, Eco Data Center a levé plus de 450 millions d'euros pour continuer à développer des solutions durables pour les data centers. Alors évidemment, le fait qu'ils se qualifient de climate positive, ça fait quand même débat, même si l'énergie est renouvelable. La production de serveurs, l'impact des matériaux, la demande énergétique croissante posent quand même des questions.
Merci Manon.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
François Rollin, qu'on va entendre dans quelques instants, sait-il seulement qu'en 2025, un jeune chroniqueur, hésitant entre le journalisme et le musical, lui a, sans même le consulter, piqué le jingle qui a fait sa gloire à l'époque de Palace.
Toujours quelque chose à dire, professeur Courade.
Le plagiat devant le plagié. Pierre Courade, vous repoussez vraiment toutes les limites de l'indécence. Pour vous faire pardonner, merci de nous résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui en une minute chrono. Non,
je précise d'abord à François Rollin que je ne me serais jamais permis de reprendre son jingle iconique sans son autorisation. Mais merci beaucoup Mathieu.
Il n'y est jamais pour rien de toute façon. Oui,
voilà. Aujourd'hui, les data centers dans Zoom Zoom Zen, ces énormes entrepôts qui consomment une quantité faramineuse d'électricité dans le but, entre autres, de fournir toujours plus de catégories déviantes au compte YouPorn de Cyril Lacarrière. Notre invité Guillaume Pitron a enquêté sur ces fermes numériques qui sont devenues un véritable enjeu économique. Nos données sont aujourd'hui valorisées et écologiques. Les data centers français consomment en électricité l'équivalent de la région parisienne. C'est le refroidissement des machines qui consomment le plus d'énergie. Enjeu de souveraineté aussi, la France mise sur l'installation de data centers pour conserver au maximum la maîtrise de ses données. Elle peut aussi attirer des centres de stockage grâce à son énergie nucléaire décarbonée. En fait, il va falloir s'habituer à vivre avec des data centers pas très loin de chez nous. Chaque activité sur Internet, chaque recherche, chaque photo ou vidéo prise ou envoyée ne partent pas dans le ciel, mais dans ses centres. Le boom de l'intelligence artificielle va demander encore plus de centres de stockage, si bien que la place que vont prendre les data centers, ajoutés aux zones d'éoliennes, de panneaux solaires et de centrales nucléaires, utiles pour fournir de l'électricité, commence à agacer des citoyens, comme en ce moment dans le sud de la France. Et comme dirait Guillaume Pitron, l'invisible ne s'efface jamais.
Oh, c'est toujours bien de citer l'invité à la fin de votre chronique. C'est flagorneur, mais toujours efficace. En 2025, il y a trois choses auxquelles on n'échappe pas, la mort, les impôts et François Rollin. François, chaque vendredi, vous venez nous dire, avec un franc-parler parfois un peu déstabilisant, nos quatre vérités.
Oui, Mathieu, les plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, jetons un rapide coup d'œil sur la semaine de Zoom Zoom Zen. Lundi, crise de la masculinité. Quelle crise de la masculinité? Où ça, une crise de la masculinité? Est-ce que j'ai l'air d'être en crise? Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Mardi, mort sociale. Il y aurait trop de vieux. Quels vieux? Où ça, des vieux? Est-ce que j'ai l'air d'être vieux? Est-ce que j'ai l'air d'être trop? Sans commentaire. Mercredi, fémo-nationalisme. Mais quel fémo-nationalisme? Où ça, du fémo-nationalisme? Est-ce que j'ai l'air d'être fémo-nationaliste? Allez, enlever le bœuf, c'est de la vache. Jeudi, égalité. Mais quelle égalité? Où ça, l'égalité? Mathieu Noël gagne 3 fois plus que Manon Mariani, qui elle-même gagne 5 fois plus que Quentin Lui, qui, lui, gagne 64 fois plus que Marie de Breuer. Égalité, mes fesses, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, vendredi, data centers. Mais quel data center? Où ça, des data centers? Pas chez moi, en tout cas, mes chats, ils sont allergiques. À dégager. Alors, d'où vient le problème? Eh bien, je vais vous le dire. D'où il vient le problème? Je vais vous le dire, et pas plus tard que tout de suite. Le problème, c'est que vous choisissez toujours, ou presque toujours, vos sujets en fonction de livres parus récemment. En l'occurrence, cette semaine, dans l'ordre d'apparition, les livres d'Aurélia Blanc, de Yann Lanier, de Magali Della Suda, de Darine McMahon et de Fanny Lopez, qui est à ma droite et qui ressemble bigrement à Guillaume Pitron.
Or, j'étais pas venu pour ça. Hein.
Les Français en général et vos auditeurs en particulier sont fatigués des livres, car trop de livres tuent le livre aussi efficacement que trop de buts de la même équipe tuent le match. Les gens, les vrais, les seuls qui m'intéressent et les seuls qu'éventuellement j'intéresse, ont besoin qu'on leur parle de leur physique plutôt que de leur intellect. Savez-vous par exemple la question qui est revenue le plus souvent dans mes enquêtes d'opinion cette semaine? C'est la question suivante. Si on hydrate souvent sa peau avec de la crème hydratante, est-ce qu'il arrive un moment où la peau est tellement hydratée que la crème hydratante ne peut plus pénétrer? En d'autres termes, est-ce que trop de crème hydratante tue la crème hydratante, avec la même efficacité que trop de piment tue le chili con carne? Une autre question qui est revenue en boucle, et après je vous laisserai retourner zouzouiller dans vos librairies de la rive gauche. Les Françaises demandent, est-ce que les cheveux repoussent plus vite si on les coupe? En d'autres termes, est-ce que trop de cheveux tue le cheveu aussi sûrement que les notables soloniaux tuent les faisans, et les perdrix, et les grives, et les bécasses, et les colverts, et les pigeons ramiers, et les vanneaux huppés, et les sarcelles, et les bernaches, et les fuligules milouins, et les fuligules morillons? À vous, Cognac G.
Ah oui, 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 vraiment, il n'y a plus que Cognac G qui peut nous sortir de là. Merci François Rollin, on vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. Et pour une fois, François, vous êtes pile dans le mille, car connaissez-vous notre sujet de lundi?
Ah non, pas encore.
La skincare routine, les crèmes hydratantes. Ah, nous allons pouvoir poser la question, François, vous êtes enfin dans le juste. Merci François Rollin, merci Guillaume Pitron d'être venu au Débeauté nous expliquer le fonctionnement et les enjeux des data centers. Je rappelle le titre de votre livre qui nous a aidé à préparer l'émission, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Zoom Zoom Zen.